Alors bonsoir et bienvenue à chacun, en particulier à ceux qui nous visitent. C'est toujours un plaisir d'avoir la visite. Ce soir, on va projeter pas mal de versets directement sur l'écran. Il y a un peu de la lecture. Ça évitera que vous ayez à chaque fois ouvrir vos Bibles pour ça. Vous pouvez évidemment le faire, mais au moins tous les versets seront projetés. Évidemment, si je suis là devant vous ce soir, ce n'est pas du tout comme spécialiste. Il y aurait des gens bien plus aptes à vous parler de ce sujet un peu délicat quand même que moi. Mais je pars du principe qu'il y a suffisamment de bons ouvrages que celui qui se dit que c'est peut-être un peu léger ce soir, il trouvera comment se renseigner davantage. Et puis, accessoirement, peut-être que ça donnera aussi des thèmes de réunion supplémentaires si peut-être certains passages ou sujets n'ont pas été assez couverts. J'ai mis juste à l'écran le plan que je vous propose ce soir. Après une introduction, nous tâcherons de prendre quelques points essentiels de la nature et de l'origine d'Israël. Un peu précisé en troisième point, la mission du peuple d'Israël. On va aussi un petit peu, alors là, comme chat sur braise, passer sur les promesses faites à Israël. Et aussi réfléchir, parce que c'est quelque chose qui est encore bien d'actualité, au rapport entre Israël et l'Église avec un grand E. Et nous finirons par une très rapide conclusion. Voilà. Même sans parler en détail, on doit tous bien reconnaître qu'Israël est vraiment mis à part. C'est un pays qui est mis à l'index des nations et son rapport avec ses voisins est des plus problématiques, on dira ça comme ça. En plus des problèmes de voisinage, on peut aussi dire que le rapport du peuple juif avec les autres nations a aussi été toujours délicat. Il y a toujours eu une tension, et y compris avec des pays lointains. Si on prend un exemple qu'on connaît bien, le nôtre, on aimerait bien se dire que la Suisse a eu que des rapports très cordiaux avec le peuple juif, que tout s'est bien passé, qu'il y a eu de l'accueil, et qu'ils ont toujours été très bien traités, que ça a été une terre de refuge. Ben, non, je suis navré de vous le décevoir, mais ça n'a pas toujours été le cas. On peut dire que jusqu'au milieu du 19e siècle en Suisse, les Juifs n'avaient le droit de s'établir durablement que dans deux seuls villages, en Argovie, à Lengnau et Endigen. On dira qu'ils y étaient tolérés. Tolérés, ça veut dire que ce n'était pas forcément un grand souhait de bienvenue, mais qu'ils pouvaient s'y établir. Malgré ça, au début du 19e, il y a eu une époque de révolte, et puis toute la population s'est retournée contre les Juifs de ces deux villages et a saccagé ces villages. Ça, c'était 1802. C'est pas si vieux que ça. La première constitution fédérale, d'ailleurs, de 1848, on parle de Suisse moderne, donc c'est pas si loin que ça non plus. Elle ne prévoyait pas du tout la liberté de croyance pour les Juifs. En 1866, alors là, on fait déjà un saut en avant, lors de la première votation populaire que la Suisse ait connue, la Suisse moderne, le premier scrutin qui a eu toute une série d'objets, il y a eu quand même un changement. À ce moment-là, tout citoyen suisse avait le droit d'aller s'établir dans un autre canton, avoir tous les droits de cet autre canton. C'était vraiment un changement. Et ça, les Juifs aussi en ont bénéficié. Alors ça, c'est un renouveau. Cette année, on célèbre les 150 ans de l'égalité des droits pour les Juifs en Suisse. Mais il ne faut pas oublier que ce jour même, lors de la même votation, un autre objet a été soumis au peuple, à savoir la liberté de croyance, la liberté de conscience, pardon, et de culte. Et ça a été refusé. Donc seulement le culte des confessions chrétiennes continue à être autorisé. Il y a eu de la pression internationale cette même année qui a fait bouger un peu les choses. Mais il a fallu attendre 1874 et la constitution révisée pour que la liberté de conscience aussi pour les religions non chrétiennes soit acceptée. 1874, c'est pas vieux. Et encore plus tard, la première initiative populaire cette fois sur laquelle le peuple suisse a dû voter. Là, je crois que c'était 1891 ou 93. Dans toute la campagne, il y a eu un antisémitisme latent. Bon, il faut dire que l'enjeu, c'était une votation sur l'abattage rituel. Toujours est-il, l'antisémitisme a été bien présent dans notre pays. On peut encore penser à la première moitié du XXe siècle. À ce sujet, ça n'a pas été toujours brillant. Un film est sorti récemment. Vous en avez peut-être vu les affiches. Je ne le recommande pas, personnellement, parce que... Voilà, c'est un peu fort. Ce film parle d'une histoire, d'un fait réel, tragique, qui a eu lieu à Payerne, notre Nord-Vaudois bien tranquille, où un groupe qui avait fait allégeance à Hitler s'est dit qu'ils allaient abattre un juif pour l'exemple, ce qu'ils ont fait. Bref, tout ça pour dire que les rapports d'Israël avec les nations, c'est pas juste un lointain voisinage moyen-oriental un peu problématique pour nous, mais il y a vraiment une notion de Israël et les nations. On pourrait presque dire, par extension, toutes les nations. On doit bien voir qu'Israël, ce n'est pas une nation comme les autres. Israël est vraiment une nation bien à part, c'est le peuple de Dieu. Regardons ça en rapport avec l'origine et la nature du peuple de Dieu. On va revenir tout au début, vraiment tout au début, à la création. Oui, depuis le début de l'humanité, Dieu a voulu être en relation avec l'homme. Déjà dans le jardin d'Éden, c'était vraiment son but. Mais très rapidement, on voit que la désobéissance de l'homme a brisé cette relation. Mais ce désir de relation de Dieu avec l'homme ne s'est pas arrêté. Là, on retrouve le thème tout au long de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais depuis la chute, ce désir de relation, il a pris aussi toute une autre dimension. La rédemption. Là aussi, on trouve ce thème de la rédemption très rapidement. Pas depuis le début, mais depuis Genèse 3 et la chute, jusque tout à la fin de la parole. Il faut voir dans l'alliance avec Israël quelque chose qui parle de ce cadre plus large de la relation de Dieu avec sa création, avec l'être humain. C'était d'ailleurs aussi le cas des alliances avec Noé, avec Adam, qui dépassaient juste ces hommes, qui dépassaient juste leur descendance. Il y avait un but plus global. On le voit déjà... on le voit également dans cette alliance qu'on appelle abrahamique, donc avec Abraham. Prenons ce premier verset dans Genèse 12. « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » On pourrait dire que cette alliance est un peu l'acte fondateur du peuple d'Israël. Après Abraham, l'alliance a ensuite passé à Isaac. On lit ça en Genèse 17. « Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuel pour sa semence après lui. » On voit également ensuite l'alliance passée à Jacob. On peut voir le songe qu'il a eu à Bethel. Et Jacob songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. » Plus tard, on voit même que le nom de Jacob est changé. Ah, je me suis trompé. J'ai été trop vite. Merci. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Ici, on a la première mention du nom d'Israël, qui est lié à une personne, et qui par extension sera le nom du peuple. Alors ce nom peut signifier, soit, là je vous mets le texte en hébreu, soit Dieu prévaut, soit celui qui lutte avec Dieu. On peut penser à quel point c'est un changement de nom pour Jacob. Dieu a donc décidé dans sa souveraineté que le peuple issu de cette lignée, de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, serait le sien. On voit un rappel de ça à la sortie d'Égypte. Le choix d'Israël n'était pas fait parce que le peuple d'Israël était plus nombreux, parce qu'il était plus puissant, parce qu'il était meilleur ou plus grand que les autres peuples, mais c'était une décision souveraine de Dieu, par amour et par fidélité. On a ce passage du Deutéronome qui rappelle cela. « Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » Israël a souvent oublié que c'était par amour qu'il était le peuple de Dieu. Il a vu sa position privilégiée comme étant un mérite ou peut-être un dû. Est-ce que ce n'est pas aussi d'ailleurs notre risque comme chrétien de voir notre position qui est également vraiment privilégiée comme un mérite? Notre nature humaine nous pousse à nous sentir peut-être un petit peu meilleurs que les autres. Alors franchement, on ne va jamais le dire, mais au fond, nous, on le pense peut-être un petit peu. Et souvent, on pense que je suis chrétien, c'est quelque chose de bien, mais quand je dis que je suis chrétien, je ne peux que baisser les yeux et puis chuchoter. J'étais perdu. Non, effectivement, nous n'avons nous non plus aucun mérite. Si on se voit même un tout petit peu comme méritant, un tout petit peu méritant ce qui nous revient, on enlève cette partie au Seigneur à qui tout l'honneur du salut doit revenir. Tout l'honneur, pas juste la majorité. Alors ça, c'est très brièvement, cette nature est l'origine de ce peuple d'Israël. Parlons un peu de sa mission. Revenons à Israël, ce peuple, on l'a dit, il est vraiment à part de tous les autres peuples. Sa mission, elle aussi, est également à part. D'ailleurs, on devrait dire ses missions, parce qu'elles sont multiples. On va essayer de voir deux, trois passages qui en parlent. Avant tout, Israël est au service de Dieu. Exode 19 le dit, « Et vous me serez un royaume de sacrificature, et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » On pourrait dire que cela veut dire qu'Israël est une finalité, et tant pis pour les autres peuples. On pourrait se dire que les autres peuples, de facto, sont exclus de toutes les magnifiques promesses qui ont été faites à Israël, mais ce serait oublier quelques autres missions que ce peuple a reçues. Israël a reçu la mission d'être un témoin de Dieu. Ce texte dont Ésaïe nous le dit, « Moi j'ai déclaré, j'ai sauvé et j'ai fait entendre, quand il n'y avait pas de Dieu étranger au milieu de vous, et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. » Une autre des missions du peuple d'Israël, c'est que c'est à ce peuple que avant tout les révélations ont été confiées. Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains. Quel est donc l'avantage du juif ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Aussi bien le témoignage que le fait d'être dépositaire des révélations de Dieu dépasse amplement celui à qui cette mission a été confiée. Je dirais même que le chargé de mission, il passe un peu au second plan par rapport à celui qui confie la mission. Prenons un exemple. La Suisse est dépositaire des conventions de Genève. La Suisse en tant qu'État. C'est assez rare d'ailleurs. Hein. La plupart des traités internationaux, c'est les Nations Unies qui sont dépositaires ou d'autres organisations internationales. Mais pour prendre notre parallèle, est-ce que la Suisse est bénéficiaire de ces conventions avant tout? Non. Enfin, on espère bien que non. C'est en faveur des peuples en guerre, c'est en faveur des victimes de la guerre, c'est en faveur du personnel militaire en cas de guerre. La Suisse, elle a que comme outil pour atteindre ce but. Autre parallèle, pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, quand nous sommes appelés témoins, c'est pas la finalité, c'est pas surtout nous, juste nos personnes, nos églises. Bien sûr, il y en a un but pour ça aussi. Mais il y a un but de transmission de ce témoignage. Si nous avons le privilège de disposer de la Bible, qui est la révélation de Dieu, ce n'est pas que pour nous, mais aussi pour en faire profiter les autres. D'ailleurs, quand on se souvient de la mission universelle qui avait été confiée aux disciples, alors eux, ils l'avaient compris. Eux, ils avaient très très vite compris tout ça. Quand Jésus les a quittés et les a chargés d'être témoins, ils ne sont pas restés sympathiquement comme ça à Jérusalem, à créer une amicale et pour se retrouver souvent et puis parler du bon vieux temps. Non, on les voit diffuser la parole, on les voit diffuser, aller plus loin et transmettre ça à d'autres. Ils étaient tellement convaincus que ce message avait le pouvoir de changer des vies, ils étaient tellement convaincus que c'était un message magnifique qu'ils n'ont pas voulu le garder pour eux. Ils en ont fait bénéficier beaucoup d'autres. Et c'est grâce à ça, notamment à cette attitude, que le message de l'Évangile est venu jusqu'à nous. Vous avez vu que quand Dieu fait alliance aussi bien avec Abraham qu'avec Jacob, il y a une mention très claire que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers eux. Paul le rappelle dans l'Épître aux Galates. Or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Le peuple juif avait donc déjà, depuis le début, des missions qui dépassaient ce seul peuple. On aurait manqué l'essentiel si on omettait une des missions qui lui a été confiée, être le canal humain pour la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on retrouve notre thème tellement important de la rédemption. C'est un aspect tellement central de la rédemption. En effet, si le peuple d'Israël avait disparu, on n'aurait pas eu de sauveur. Sans sauveur, pas de rédemption. L'enjeu était vraiment de taille. Et c'était la réalité, l'existence et la fiabilité, en quelque sorte, de Dieu qui était en jeu. Au-delà de ça, les promesses pour Israël, elles sont importantes. Si il y avait une disparition complète de ce peuple, ça aurait aussi voulu dire tout simplement que Dieu ne gardait pas ses promesses. Alors pour nous, on se pose la question, s'il ne les avait pas gardées pour le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il pourrait les garder pour nous ? Mais bien heureusement, il est fiable dans ces deux aspects. En résumé, Israël était une nation séparée, une nation pour Dieu, mais aussi une nation qui est appelée à bénir tout autour d'elle. Regardons un peu les promesses faites à Israël. Quand je dis un peu, c'est littéral, hein, je dirais même très peu. On a parlé de ces promesses dont les autres peuples bénéficiaient, mais on aurait tort d'arrêter ces promesses en disant ben finalement Israël est presque au même niveau que les autres pays ou des autres nations, tout étant égal. Et effectivement, il y a des promesses qui sont vraiment spécifiques pour Israël. Certaines promesses sont inconditionnelles, d'autres sont conditionnelles. On ne va évidemment pas passer à travers toutes ces promesses et de voir quelle est leur réalisation déjà passé peut-être pour certaines, encore à venir pour d'autres. Ce serait trop long et je serais bien incapable. Mais il y a d'excellents ouvrages qui en parlent. On va juste prendre un exemple de ces promesses conditionnelles. Prenons un extrait dans Lévitique 26. Au début, on voit la condition. En l'occurrence, vous ne vous ferez pas d'idole et vous ne vous dresserez pas d'image taillée. Car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Moi, je suis l'Éternel. Un peu plus loin, dans toujours le même passage, on trouve les bénédictions si Israël respecte ses conditions. Si vous marchez dans mes statuts et si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps. Encore un petit peu plus loin, on y trouve les malédictions si le peuple ne respecte pas les conditions. À nouveau, on est toujours dans le Lévitique 26. Mais si vous ne m'écoutez pas, Et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements et si vous méprisez mes statuts, que vous rompiez mon alliance, moi aussi, je vous ferai ceci. J'ordonnerai sur vous la frayeur, la consomption. On a parmi ces énumérations des conséquences, une autre conséquence qui est vraiment importante, c'est celle de la dispersion parmi les nations. Et le passage en parle également. « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Le texte aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été, on pourrait presque dire, logique. Il y avait des conditions. On a les conséquences d'un respect des conditions. Les conditions si ce n'était pas respecté. Ce qu'on appellerait nos jours sur un contrat des clauses pénales. Mais le texte, il ne s'arrête pas à ça. Heureusement d'ailleurs. Et là, je trouve que c'est juste un passage magnifique qui clôt ce passage de Lévitique 26, 44 à 46. Même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas, et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux, pour rompre mon alliance avec eux. Car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations, pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Ce sont là les statuts et les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. On apprend vraiment beaucoup sur Dieu, sur la façon dont lui traite son peuple Israël. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on apprend sur lui dans ce passage ? Moi, je pense plusieurs choses qui sont encore vraiment vraies, tout à fait vraies aujourd'hui. Premièrement, Dieu est unique et il est saint. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et ça, ce n'est pas négociable. Un deuxième enseignement qu'on pourrait retenir pour nous, c'est que quand bien même nous ne faisons pas notre part du contrat, si vous me passez l'expression, il ne nous écarte pas définitivement. Moi, je vois dans la dernière partie de ce passage la grâce de Dieu qui transparaît. Cette grâce qui va être parfaitement manifestée en Jésus-Christ, on en a déjà quelques évocations dans l'Ancien Testament. Et je pense plus nombreuses que ce qu'on imagine des fois. Bon, moi, c'est comme ça que j'analyse ce passage. Je me dis, oui, il finit par une grâce, malgré le non-respect des conditions. Et combien de fois, avec nous, il doit aussi vivre ça ? Accepter qu'on lui désobéit et il nous écarte pas définitivement ce qu'on aurait pourtant mérité. Comme je l'ai déjà dit, on ne va pas passer en détail à travers les promesses, mais j'aimerais bien m'arrêter à une seule promesse, c'est celle-ci. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour 1000 générations, ça c'est un rappel dans les chroniques, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et qu'il a juré à Isaac, et qu'il a établi pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpétuelle. J'ai souligné volontairement comme alliance perpétuelle. Cette alliance perpétuelle avec le peuple juif, comme les chroniques le rappellent, c'est vraiment tout simplement l'existence de ce peuple juif qui est miraculeuse. Ça, c'est une promesse, l'existence du peuple qui continue. D'ailleurs, même des gens qui n'appréciaient pas forcément les juifs le reconnaissaient. Parmi ceux-ci, on retrouve Voltaire. Mais cela... Le fait qu'il n'appréciait pas forcément les Juifs, ça ne l'a pas empêché de répondre une fois du tac au tac au roi qui lui demandait « Donnez-moi une preuve tangible de l'existence de Dieu. » Alors là, il a effectivement répondu du tac au tac en disant « Les Juifs, sire. » Et puis le roi, étant interloqué par sa réponse, lui a demandé de s'expliquer un peu « Ça veut dire quoi tout ça ?» Et Voltaire a alors précisé « Sire, est-il possible qu'un peuple aussi petit, aussi dispersé, aussi persécuté et aussi haï soit encore vivant, si ce n'est que par la volonté de Dieu. » Voltaire parle d'une dispersion qu'il a constatée lui-même. Jésus en parlait lui-même avant qu'elle arrive. Et c'est ces passages qui sont qui sont parfois durs à lire, mais on voit le Seigneur dire à ceux qui l'entourent, « Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. Car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Seulement environ 35 ans après ces paroles, il y a eu une révolution en Judée. Certains voulaient s'affranchir complètement de la tutelle de Rome. Évidemment, Rome ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Est venu assiéger et mater cette rébellion. En l'an 70, après des mois de siège, Jérusalem tombe. La ville est complètement détruite et le temple incendié. On estime qu'environ 1 million de Juifs sont morts à cette occasion. Selon des estimations, ce serait 1/5 de la population juive mondiale de l'époque. 20%, c'est juste énorme. Vous imaginez ce qu'a dû ressentir le Seigneur Jésus en sachant ce qui allait arriver. On est en train de parler d'environ 35 ans après ce qu'il a dit. Des gens qui étaient autour de lui, des gens qu'il voyait, certains allaient en mourir. Il ne l'avait pas accueilli comme Messie. C'est pas étonnant que Jésus ait pleuré sur cette ville de Jérusalem, comme le rapporte l'évangile de Luc. C'était à la descente du mont des Oliviers où il a pleuré, en voyant la ville de très près au final. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » On peut imaginer la tristesse de notre Seigneur en imaginant ça à l'avance. Lui le savait. Une nouvelle révolte, peu après, dans les années 130, amène une nouvelle guerre terrible. Cette fois, on estime que c'est un nombre d'environ 500 000 Juifs qui sont morts. En d'autres termes, entre ces deux périodes, on arrive à presque un tiers de la population juive qui meurt. En introduction, je vous avais parlé de la situation assez peu glorieuse de notre propre pays, mais ça faisait déjà très longtemps que cette persécution contre les Juifs existait et un peu partout. La dispersion depuis l'an 70 ou 130 parmi les nations n'a pas pour autant arrêté les persécutions. Je vais peut-être juste vous lire. Alors, je suis navré, c'est peut-être pas très, très beau de parler de tous ces décès, de ces menaces contre le peuple juif, mais je pense qu'on doit se rappeler aussi que notre continent a eu une histoire terrible à ce sujet. René Pache écrit dans son petit livre « La destinée d'Israël » à ce sujet. Voici un bref rappel de quelques-unes des souffrances subies par les Juifs de la part des nations européennes. Les croisés massacraient partout les Israélites sous prétexte qu'ils étaient des déicides, donc des gens qui ont tué Dieu. En mai-juillet 1996, 12 000 Juifs sont tués en Rhénanie. Le 1er novembre 1290, expulsion de tous les Juifs d'Angleterre sous peine de pendaison. Ils ne furent réadmis dans le pays que 370 ans plus tard. Du printemps à l'automne 1298, 100 000 Juifs sont tués en Franconie, en Bavière et en Autriche. En septembre 1306, expulsion de 100 000 Juifs de France sous menace de mort. En 1348, on accuse les Juifs d'avoir causé la peste noire et on en tue plus d'un million. Le 2 août 1492, l'Inquisition chasse d'Espagne 300 000 Juifs sous menace de mort également. De 1648 à 1658, environ 400 000 Juifs polonais sont tués pendant la guerre entre la Russie, la Pologne et la Suède. C'est en 1791 seulement que la Révolution française supprime la première des lois d'exception contre les Juifs. Soit dit en passant, pendant une bonne période, les Juifs français vivant en Suisse étaient bien mieux traités que les Juifs suisses. Et tout ça ne parle même pas de ce qui s'est passé plus à l'Est, les pogroms en Russie. Et M. Pache n'a pas parlé évidemment de ce, traumatisme du XXe siècle, les 5 à 6 millions de Juifs exterminés durant la Deuxième Guerre mondiale. Rien que la Shoah des années 40 a tué environ 40% de la population juive mondiale d'époque. Mais Israël n'a pas disparu. Israël existe toujours. Ouais, effectivement, l'existence du peuple d'Israël relève du miracle. Mais Dieu l'avait promis. On ne devrait pas être étonné. Dieu l'a promis dans une alliance perpétuelle qu'Israël serait son peuple et l'a tenu parole. J'ai juste trouvé un diagramme qui parle de l'évolution de la population d'Israël. Donc, qui commence à l'année moins 1800. On voit là, plus ou moins, entre moins 200 et plus 200, une baisse drastique, une baisse dramatique. C'est celle dont on a parlé, c'est la persécution lors de la prise de Rome, et puis tout ce qui s'en est suivi. Après, c'est un peu délicat, hein, on ne voit pas trop bien les variations, ça ne colle pas exactement avec ce que je vous ai lu. À partir de 1750, ou la fin du 18e, on voit plus de liberté arriver, on voit une évolution majeure jusque dans les années 1930-40. Et là, nouveau une baisse, on en a parlé. J'ai lu une estimation nouveau qu'on estime qu'on est revenu tout récemment au nombre de Juifs qui vivaient sur Terre avant la Shoah, avant 1939. On doit pas en être loin en tout cas. Qui aurait cru que, quand on voit toutes ces persécutions, qui aurait cru que presque deux millénaires, loin de son pays, ce peuple existerait encore? Et pourtant, Dieu l'a permis. La création de l'État d'Israël en 1948 était tellement plus qu'improbable. Mais Dieu reste fidèle, bien que son peuple n'ait pas reconnu le Messie qu'il a envoyé. Et à ce titre-là, les choses n'ont pas tellement changé en deux millénaires. Encore maintenant, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme Messie. Par contre, les promesses de Dieu, elles subsistent. On va voir ce qu'en dit Paul. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne. Car moi aussi je suis israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Voyons aussi ce qui a été annoncé en prophétie, cette fois dans Zacharie. Zacharie au chapitre 12. Je vous avais dit qu'il y aurait pas mal de textes, hein, quand même. Zacharie 12 nous dit « Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Revenons un peu à Romains 11. Romains 11 nous parle également de la chute et du rétablissement à venir d'Israël. On trouve beaucoup de ces rapports, des explications dans le Nouveau Testament, dans ces chapitres de Romains 9, 10, 11 et 12. Alors, Romains 11, les versets 11 à 12. « Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne. Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si la chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus sera leur plénitude? Un peu plus loin, on voit « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob de l'impiété. » Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leur péché. Quand on lit ce que Paul écrit à propos du peuple juif, qui s'est pourtant entêté, on le sent tellement triste à ce sujet, tellement triste de l'entêtement. Et en même temps, on le sent tellement réjoui à la perspective des bénédictions futures que Dieu donnera à son peuple. Romains 9 commence par ce texte, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend en témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. Car moi-même, j'ai souhaité être anathème, séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses. Auxquels sont les pères et desquels selon la chair est issu le Christ qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. On a parlé de cette tristesse de Paul, du fait qu'il se réjouit du rétablissement futur. Mais là, moi, je trouve qu'on sent un amour énorme, un amour incroyable pour ce peuple. Il est prêt à dire qu'il est prêt à perdre son propre salut pour ce peuple. Il sait bien que ce n'est pas possible, mais il dit qu'il serait prêt à le faire. Et ça, c'est juste un amour énorme qu'il prouve ainsi. Pour moi, ce passage, il est assez clair aussi qu'il interdit tout antisémitisme chrétien. Et une tendance, elle peut être toujours là pour nous. On est au contraire appelé à l'amour pour le peuple juif. Parlons peut-être un peu des rapports entre Israël et l'Église. Les rapports entre l'Église avec un grand E et Israël ne semblent pas du tout être simples, même si on lit ce qu'on dit la parole. Si vous me passez l'expression, l'acte fondateur de l'Église, c'est la Pentecôte. Depuis ce moment-là, on s'est posé la question des rapports entre l'Église et Israël. Au début, c'était assez facile, les chrétiens étaient issus du peuple juif et ça ne posait pas tellement de problèmes. Mais rapidement, la question s'est posée, est-ce que les gens des nations, les gens qui ne sont pas juifs, peuvent être sauvés et croire au Seigneur Jésus? Et ça n'allait pas du tout de soi pour les chrétiens d'origine juive qui n'imaginent pas du tout que des non-juifs puissent être sauvés. On se souvient de la vision qu'a eue Pierre avant d'aller chez Corneille. Mais sans doute, sans cette vision, il n'aurait jamais franchi le seuil de la maison de Corneille. En plus de cette vision, qui peut-être n'aurait pas suffi à convaincre Pierre, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur les gens qui étaient rassemblés là, de la même façon que Pierre l'avait vu descendre sur les gens rassemblés à la Pentecôte. Alors ça a convaincu Pierre que ceux qui avaient cru, bien qu'ils ne soient pas du peuple juif, étaient des croyants en Christ aussi bien que lui l'était. Ça, c'était la première étape pour l'intégration des gens des nations dans l'Église. Tout au long du Nouveau Testament, on trouve cette question des Juifs qui sont confrontés à la foi dans le Seigneur Jésus. On peut penser à Paul qui commençait toujours à aller parler dans les synagogues, à aller donner le message de l'Évangile avant d'aller vers les circoncis. Mais les Épîtres aussi, elles parlent beaucoup de ce tiraillement entre la foi juive et la foi au Seigneur Jésus. On peut penser à l'Épître aux Galates où Paul met en garde contre le légalisme. Manifestement, certains revenaient à la loi en affirmant que pour être sauvé, il fallait absolument être circoncis. Paul clarifie d'ailleurs souvent ces points dans ses Épîtres en affirmant clairement que le salut est obtenu sur le principe de la foi, pas des œuvres, ni sur le principe du respect de la loi. Juste un verset dans les Galates. « Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante dans l'amour. » On pourrait faire un raccourci et dire que la loi, c'est ce à quoi les Juifs s'identifiaient le plus. On pourrait dire que, justement, cette loi, elle ne servait à rien. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Lui dit que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Le mot qui est traduit « conducteur » par Darby veut dire en fait « pédagogue ». C'est bien un pédagogue qu'est la loi. Elle démontre à chacun de nous que nous ne parvenons pas à nous présenter sans péché devant Dieu. Quand on pense aux commandements, on pense souvent aux commandements de ne pas tuer, pas commettre l'adultère, ces choses assez visibles. On pense souvent un peu moins aux commandements de style plus discret, ne pas convoiter, même pas un peu. D'aimer Dieu de toute notre force et de notre pensée, ou bien ce terrible commandement dans lequel nous avons tous failli aimer notre prochain comme nous-mêmes. Toujours dans l'Épître aux Galates, Paul écrit ceci, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. » Ce passage des Galates pourrait, a priori, sembler dire que l'Église et Israël sont tout à fait la même chose. On trouve d'ailleurs un passage semblable dans les Colossiens, mais il faut aller regarder au contexte. Le contexte est très clair. On voit que Paul parle du salut, vraiment du salut. Et effectivement, là, dans le salut, il n'y a pas de différence. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, qu'on soit un chrétien d'origine des nations, qu'on soit un chrétien d'origine juive. C'est la même chose. Comme beaucoup de juifs considéraient que le respect de la loi était la condition du salut, les écrivains bibliques devaient vraiment rappeler, expliquer, non, la foi était la condition au salut. En plus des passages de Galates, on l'a vu, Paul parle dans les Romains avec la même explication, la foi est centrale. Et pour expliquer, pour mettre ça en évidence, il remonte même jusqu'à Abraham. Alors ça, c'était vraiment ce signe très clair que la foi, déjà dans l'Ancien Testament, est ce qui sauvait. Que dirons-nous donc ? Ce que, selon la chair, Abraham, notre père, a trouvé ? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture ? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Donc c'est la foi en Dieu qui lui a été comptée à justice, non pas son respect de la loi. On l'a vu donc tout au début, les chrétiens étant issus du judaïsme, les rapports étaient très proches, ils se connaissaient très bien, ils savaient qu'est-ce que des deux côtés on croyait. Mais avec le temps, plus le temps passait, plus les chrétiens ont commencé à se poser des questions parce qu'ils étaient de moins en moins issus du judaïsme. Ils ont commencé à se poser des questions telles que, est-ce que l'Église remplace Israël ? Ou bien encore, est-ce que Israël en tant que peuple de Dieu, vraiment en tant que peuple de Dieu, a disparu ? Je vais peut-être simplifier à l'extrême les positions qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui sur le sujet. Vous m'excuserez, c'est vraiment peut-être un peu caricatural, mais on trouverait premièrement ceux qui disent que l'Église, avec un grand E, succède à Israël et le remplace. Ça voudrait dire que les promesses faites à Abraham, qui ne se sont pas encore réalisées, le seront dans l'Église. Alors souvent, pour faire passer ça, ceux qui prônent cette interprétation disent « mais ça ne va pas être de façon visible, ça va être purement spirituel ». Ensuite, on a ceux qui croient qu'Israël est distinct de l'Église et qu'actuellement les deux coexistent. Parmi les promesses qui ne se sont pas réalisées en faveur d'Abraham, on peut penser à celle qui traite le territoire qu'Israël allait recevoir. C'était prévu depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Et ça, à ce jour, Israël n'a jamais dominé en entier. L'Euphrate, ça fait vraiment loin. D'ailleurs, même du temps de Salomon, ça n'a pas été aussi loin. C'est ce que Genèse 15, le verset qui est affiché, rappelle. Alors, est-ce que cette réalité, est-ce que ça, vraiment ce sera une réalité purement spirituelle pour l'Église, d'aller spirituellement jusqu'à l'Euphrate ? Alors, personnellement, j'en doute beaucoup. Et puis si on veut être cohérent, si l'Église remplace Israël, il faut penser quoi de l'état d'Israël actuel ? Il s'agit de quoi ? Si ce n'est pas le peuple de Dieu, il s'agit de quoi ? Vous l'aurez compris, ce qu'on croit quant au remplacement d'Israël par l'Église a un impact absolument majeur de notre façon de voir ce que la Bible dit des choses à venir, de l'eschatologie. On pourrait dire que c'est une discussion de théologiens purement et simplement. Il y a pourtant quand même des aspects pratiques qui vont être grandement impactés. Prenons la question du baptême. Pour ceux qui croient que l'Église a remplacé Israël, le baptême remplace tout simplement la circoncision. Il est donc pratiqué sur les enfants. Même chose. Mais à mon sens, croire ça, c'est pas tenir compte du fait qu'Israël est un peuple. On pourrait presque dire que c'est un peuple politique. Un peuple politique depuis le début, une entité qui a été choisie, on pourrait même dire créée par Dieu. Mais ça reste un peuple. On rentrait dans ce peuple à la naissance. Il me semble qu'on pourrait résumer et dire que si on était dans la lignée juive, la circoncision était juste la manifestation de l'appartenance au peuple d'Israël. si vous me passez l'image, un genre de passeport, quoi. Qu'Israël croit en Dieu ou pas, ça reste Israël. Ça reste le peuple de Dieu. On voit tout au long de la Bible Dieu appeler son peuple à la fois à croire en lui, à le rechercher. Mais même quand le peuple a renié Dieu, Dieu n'a pas renié son peuple. Ainsi, croire que le baptême des enfants remplace la circoncision, c'est également ne pas vraiment tenir compte de la façon dont on entre dans l'Église. On n'entre pas par la naissance, mais par la foi, par conviction personnelle, par la nouvelle naissance. Donc oui, seulement celui qui croit fait partie de l'Église. Et là, vous voyez la différence entre les deux. Et parfois, on a mélangé les deux choses. Pour certains, des registres de baptême devenaient un outil politique. Ça voulait dire que ce terrain-là, c'était eux qui le dominaient. Et souvent, c'était par une incompréhension. Et les conséquences de ça, c'était quoi? Très souvent, c'est que c'était l'aspect politique qui primait. Et donc, l'aspect de la foi était secondaire. On a eu des gens, ça nous a, dans le passé peut-être, qui étaient là par politique. Ils ne s'étaient jamais rebellés. Et donc, on partait du principe que, comme ils ont été baptisés, ils étaient croyants. Je pense que ça remplit, et c'est un risque toujours pour nous, d'avoir, quand l'Église n'est pas composée que de chrétiens, ça risque d'être... Je pense que ça fait plus de tort à l'Église dans l'histoire que toutes les persécutions qui ont été livrées contre elle. Bon, j'arrête ma parenthèse, elle est un peu longue, mais pour moi, c'est juste un des exemples très concrets et pratiques de voir les conséquences de ce qu'on croit. Qu'est-ce que ça a pour conséquence, vraiment? C'est vrai dans d'autres domaines, d'ailleurs. Je vois que je suis un petit peu en avance, mais pour terminer... C'est pas toujours le cas. Hein. Pour terminer, j'aimerais bien, juste avec Paul, relever quelle grâce immense nous a été faite à nous, gens des nations. Quelle grâce immense nous a été faite d'avoir accès à Dieu par le sang de Christ. À la base, nous n'y avions aucun droit. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, vous étiez appelé incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, faite de main dans la chair. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étranger aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix. Qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture? Jésus-Christ est la solution pour toutes les nations, mais c'est également la solution pour le peuple d'Israël. Le salut ne se trouve que par lui. J'aimerais terminer en disant que à lui soit la gloire.